solution et tout et tout. Donc là, une personne qui va en Afghanistan doit vraiment prendre des précautions avant de partir pour ne pas pouvoir être utilisée par les soviétiques.
Et comment est organisée la résistance? Bon, celle peut-être que tu as rencontrée dans les régions où tu es allée, et puis aussi au niveau général.
Alors, comme toute la population est victime des attaques soviétiques, toute la population réagit, a réagi et continue à réagir. Il est pratiquement impossible de faire la différence entre la population civile et la résistance armée. Parce qu'au début de la lutte, chaque Afghan regroupa ses frères, ses cousins, ses oncles, ses enfants, prit un fusil ou les armes qu'il avait à la maison et s'organisa pour organiser la résistance. Alors c'est une réaction individuelle, mais absolument massive et spontanée partout dans tout l'Afghanistan. Alors de là, les villages, les régions ont commencé à se coordonner entre elles parce qu'elles se rendaient bien compte que c'était absolument vital de s'unir et se coordonner, commencer à se coordonner pour sortir l'envahisseur. Cette différence entre population civile et résistance, on pourrait la faire entre celui qui a une arme et celui qui n'a pas d'arme. Mais bon, toutes les personnes qui n'avaient pas d'armes m'ont demandé de leur en procurer une. Alors, la volonté, elle est vraiment partout en Afghanistan et il y a vraiment une unité dans la volonté de sortir les soviétiques. Concernant. Tu m'avais demandé si j'avais vu des combats et des soldats soviétiques. Alors bon, le voyage a été organisé pour visiter les régions libérées, mais ça n'empêche pas que les soviétiques sont en Afghanistan. Et nous avons eu plusieurs moments avec les forces soviétiques. Par exemple, d'abord nous avons rencontré des déserteurs de l'armée gouvernementale afghane. Il y avait une armée gouvernementale, soi-disant, afghane avant l'invasion, qui était de 90 000 hommes. Et bon, suite à l'invasion, il y a les 70 000 qui sont partis et il reste 20 000 qui sont obligés de rester là. Et la majorité de l'armée a déserté et a rejoint la résistance. Alors nous avons rencontré des déserteurs et des soldats qui ont rejoint la résistance, qui venaient de sortir de leur garnison en prenant armes et munitions et qui venaient de rejoindre la résistance. Nous avons discuté avec eux, ils nous ont expliqué pourquoi ils l'avaient fait et que pour eux c'est évident que leur famille, leur peuple résistent et puis qu'ils étaient désolés d'avoir pas pu sortir plus tôt. Un deuxième moment par rapport aux soviétiques, c'est que nous avons dû passer pour revenir entre deux garnisons très proches l'une de l'autre, et nous avons dû traverser un énorme fleuve. Alors il a fallu bien préparer ce moment parce que c'était extrêmement dangereux. Nous avons dû marcher la nuit, nous avons dû être complètement silencieux, nous avons dû former un grand groupe au départ avant de pouvoir passer entre ces garnisons pour assurer la sécurité. Et puis nous sommes montés dans un canot pneumatique et puis c'était très important de traverser très vite le grand fleuve parce que si nous ne traversions pas assez rapidement, on aurait été embarqués devant la garnison soviétique. Ça, c'était un autre moment un peu difficile. Et puis bon, quand on était dans le village, on est resté 5 semaines dans un village. Pendant plusieurs jours, des hélicoptères et des MiG nous ont survolés en regardant ce qui se passe. Et puis, c'était 2 hélicoptères et 2 MiG. Et puis, ils ont bombardé la vallée à côté. Alors, si tu veux, j'ai pas vu les yeux, la couleur des yeux des pilotes soviétiques dans les avions. Mais j'ai vu donc la présence soviétique en Afghanistan.
Peut-être avant de continuer, On va écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute alors cette fois? On écoute toujours les chants de la résistance. Comment est organisée la résistance en Afghanistan?
Alors pour le moment, il n'y a pas encore un front qui regroupe toutes les forces de la résistance afghane. Mais il existe les bases de ce front, et même plus que les bases, il existe des membres actifs d'un front qui s'appelle le Front Uni National d'Afghanistan, le Jabha Mortahede Meli Afghanistan. Ce front est composé d'organisations politiques révolutionnaires, il est composé de fronts militaires, il est composé de personnes démocratiques. Et c'est un front donc ouvert à toute personne qui est d'accord avec la plateforme et qui est d'accord de lutter contre l'envahisseur soviétique. Ce front a organisé des actions, beaucoup d'actions, au sein des garnisons et les révoltes donc de soldats et d'officiers contre l'armée, l'invasion soviétique, donc au sein de l'armée afghane. Les révoltes, il y a eu beaucoup de révoltes dans les garnisons et c'est extrêmement important la question du rôle de l'armée afghane dans la résistance. Alors bon, maintenant la majorité de l'armée afghane a rejoint la résistance et il s'agit de construire des régions libérées, bien organisées et d'intensifier les combats autour des villes et autour des régions occupées. Le Front Uni National d'Afghanistan est important dans une quinzaine de provinces sur 26. Et il compte des membres actifs dans toutes les autres provinces. C'est le seul front que j'ai rencontré et dont j'ai vu les actions qui menaient la lutte avec le peuple et pour le peuple, pour le bien-être du peuple, dans l'immédiat, et pour le futur. Quelques points de ce qu'a envie le front pour le futur rejoint totalement ce que désire la population. J'ai demandé à la population, c'était une question essentielle pour moi, de quoi avait-elle envie après? Et la population a envie d'un pays où tout le monde a assez à manger, d'un pays où tout le monde dort sous un toit, d'un pays où tout le monde a l'accès aux écoles, garçons et filles, d'un pays où il y a la liberté totale d'expression, d'un pays où les personnes qui travaillent bénéficient des fruits de leur travail, et un pays où tout le monde peut participer à l'organisation de la nation.
On va mettre un petit peu de musique parce qu'il y a des petits ennuis techniques pour changer. Alors on écoute un peu de musique. Thank you.
وطن بسرانات نمردن آسود باز گفت لحجانه نخوردن آسود باز گفت لحجانه نخوردن
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101,4 MHz. On nous a téléphoné tout à l'heure pour nous dire que notre micro faiblissait. Nous espérons avoir réparé ce pépin. Nous espérons que l'audition est meilleure. Nous allons continuer l'émission sur l'Afghanistan avec Anna Laila qui vient de passer 5 semaines avec la résistance afghane. Peut-être que ce serait important de parler un petit peu des liens entre la résistance et la religion, l'islam, parce que c'est une question qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'occidentaux, en tant que femmes aussi. On a une espèce de peur et de haine, je pense, de l'islam. Et bon, peut-être pas en tant que philosophie. Après tout, ça vaut bien la philosophie chrétienne. On n'a pas de jalousie à avoir. Mais disons, de la manière dont la religion est très souvent utilisée dans les pays où elle est aux mains du pouvoir. Quels sont donc les liens entre la résistance afghane et l'islam?
Donc l'islam a été imposé par la force en Afghanistan, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais elle a été très mal imposée dans le sens où il y a eu résistance de la part des Afghans et des Afghanes. Et il y a un proverbe qui dit, un proverbe de la part des Iraniens, qui dit « Les Afghans, ils connaissent que la moitié du Coran ». Alors, c'est sûrement vrai, parce que premièrement, le Coran est en arabe, alors la population afghane ne parle pas l'arabe. Et ensuite, parce que le Coran est un livre et que la majorité du peuple afghan ne sait pas lire. Alors, effectivement, l'islam est très peu implanté et compris parmi la population afghane. Ceci dit, il y a beaucoup de coutumes qui sont venus avec l'islam, qui sont restés. Par exemple, on se lave et on fait la prière 5 fois par jour. Dans un pays chaud comme l'Afghanistan, se laver est vraiment une règle essentielle de l'hygiène quotidienne. La prière est une forme de gymnastique tout à fait adaptée à cette région. Donc, l'islam en Afghanistan est plus une question de coutume et de tradition que d'idéologie, avec une idéologie précise, qu'il faut que ce soit 3 religieux qui dominent le monde, et tout.
Il n'y a pas de sectes fanatiques, comme il y a en Iran ou comme ça.
Il y a un groupe qui est basé à Peshawar, qui s'appelle Hezbi Islami de M. Gulbuddin, qui est manipulé par les soviétiques et qui prône un régime comme le régime Khomeini. Mais ce monsieur et son parti sont absolument détestés en Afghanistan. Il ferait mieux de ne pas s'y rendre d'ailleurs parce qu'il risque de lui arriver des ennuis à cause de leur pratique absolument scandaleuse de tuer tous les autres partis, tous les autres groupes. N'importe qui n'est pas d'accord avec l'islam fondamentaliste comme Khomeini la veut est exterminé par ce groupe. Mais bon, ça c'est un petit groupe, ça n'a rien à voir avec la majorité des gens. La majorité du peuple afghan, oui, il veut un pays, il voudra un nouveau pays où l'islam est la religion nationale dans le sens où simplement la majorité du peuple est musulman. Mais entre ça et être d'accord avec ce que fait Khomeini, ils ne le sont absolument pas. Ils sont absolument contre l'utilisation de l'islam au service de deux ou trois dirigeants. Et ils se rendent très bien compte que les personnes au pouvoir ont toujours utilisé l'islam. Par exemple, une des bases de l'islam et de toute autre religion, qu'elle soit catholique, protestante, toutes les autres, c'est « tu es pauvre, reste pauvre, quand tu meurs, tu iras au paradis, tout ira bien ». Et les gens, les personnes au pouvoir ont toujours utilisé cette philosophie pour garder le pouvoir. Alors les Afghans, les Afghanes ont trouvé une explication aux choses en disant « oui, Allah l'a voulu », essentiellement parce qu'ils ont encore peu de connaissances scientifiques pour expliquer les choses. Mais il y a tout un monde entre ce qu'ils pensent et entre les atrocités commises par le régime iranien.
Comment la population voit-elle le développement de la lutte?
Alors les Afghans et les Afghanes, ils savent que malheureusement, ils se sont rendus compte que les Soviétiques, ils ne vont pas sortir d'eux-mêmes. Il faut les aider à s'en aller. Parce qu'ils sont décidés à rester pour un bon moment. Et de l'autre part, les Afghans et les Afghanes n'accepteront absolument jamais des envahisseurs, qu'ils soient soviétiques, américains, chinois, suisses, n'importe qui vient les dominer. Ils aiment la liberté, ils aiment l'indépendance, et c'est exclu d'accepter pour eux n'importe quel envahisseur. Alors ils résistent, et ils résisteront jusqu'à la mort. Ça c'est une chose qui m'a bouleversée, c'est de voir que la population entière préfère mourir que d'être esclave. Un exemple de cette détermination, par exemple, quand les Soviétiques arrivent dans des villages, les femmes sont là, les hommes sont dispersés dans les montagnes avec les fusils. Alors les femmes se battent avec des cailloux, des bâtons, des pierres. Et au dernier moment, quand elles sentent qu'elles n'ont pas le rapport de force pour résister à cette attaque, elles se jettent dans le puits ou dans la rivière. Elles préfèrent mourir que d'être esclaves, que d'être soumises, que d'être violées, que d'être vraiment soumises à quelqu'un. Et il y a une phrase que l'on retrouve à la bouche d'une multitude d'Afghans et d'Afghanes, c'est « liberté ou mourir ». Et cette phrase reflète vraiment la pensée profonde et la détermination profonde des Afghans et des Afghanes.
On met un peu de musique.
هم تو به کتو تنها نمانده ای ایمان سر وطن به سرانت نمارده
De partis qui sont avant tout siégés à l'extérieur de l'Afghanistan au Pakistan, qu'on appelle les partis de Peshawar. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que sont ces organisations et qu'en pense la population ?
Au début de l'intervention soviétique, il se trouvait une trentaine d'organisations et de partis afghans basés, qui avaient une base à Peshawar. Le gouvernement pakistanais, aidé par les Américains, décida de choisir 6 partis parmi tous ces partis pour représenter officiellement la résistance afghane. Alors, le président du Pakistan, M. Zia, a choisi les partis qui correspondent à ses idées. Il a choisi 3 partis islamiques fondamentalistes, dont celui que j'ai mentionné précédemment qui fait des atrocités, donc qui veulent un islam à la Roumanie, parce que son propre gouvernement est basé aussi sur l'islam fondamentaliste, donc le gouvernement du Pakistan. Et il a choisi 3 partis royalistes, c'est-à-dire pour le retour du roi, pour une monarchie ou une monarchie constitutionnelle, ou bien quelque chose où il y aurait une cour et des privilèges pour les aristocrates. Ceci parce que l'histoire, c'est qu'il y aura une personne qui dirigerait l'Afghanistan et que ça correspond tout à fait aux idées de Zia qui lui dirige le Pakistan ou essaye de diriger le Pakistan. Alors ces 6 partis, premièrement, ils correspondent absolument pas du tout à ce qu'a envie le peuple afghan. Le peuple afghan, il a envie de liberté d'expression, il a envie de liberté d'association, il a envie d'un pays qui réponde aux besoins de la majorité de la population. Et il n'a pas du tout envie de ces partis-là. Ceci dit, ces partis étant officiellement reconnus par le Pakistan, les États-Unis et d'autres pays, ces partis reçoivent de l'aide, un peu d'aide des autres pays. Parce que l'aide internationale, d'abord, elle arrive au Pakistan, notamment l'argent et l'aide du CICR, la Croix-Rouge et du Haut Commissariat du Réfugié, qui en premier doit donner cet argent à travers le gouvernement pakistanais. Alors le gouvernement pakistanais se sert amplement de l'aide et il donne quelques miettes. Les miettes qu'il donne, il donne aux partis, à ses partis, donc ils ne représentent absolument pas le peuple afghan. Les combattants à l'intérieur, ils ont un besoin urgent de matériel. Alors dans l'espoir d'obtenir ce matériel, ils viennent à Peshawar et ils s'adressent aux partis et ils désirent obtenir un peu de l'aide qui arrive. Ils désirent obtenir l'aide. Ces partis disent « Ouais, tu veux que je te donne un fusil ? D'abord, il faudra que tu sois membre de mon parti. Et puis deuxièmement, il faudra que tu me payes. » Alors le peu d'armes qui arrivent dans les mains des partis afghans, ils sont revendus à la résistance, aux gens qui combattent effectivement à l'intérieur du pays. Les dirigeants de ces partis s'empochent les sous et vivent grandiosement dans des grandes maisons, des villas et tutti frutti. Alors, une demande que m'ont fait toutes les personnes que j'ai rencontrées en Afghanistan, c'est raconte, dis à tes amis, au peuple de Suisse et d'Europe, raconte ce qui se passe avec ces 6 partis et s'il vous plaît, si vous voulez envoyer de l'aide, envoyez-la directement en Afghanistan, à la résistance, aux Afghans et aux Afghanes qui se battent directement contre les envahisseurs soviétiques.
Bien. On met un petit peu de musique et puis après on parle un peu des femmes afghanes.
موسیقی ای تو دای نامآور افغان نیراد از حمله اردوی شریران نیراد از حمله اردوی شریران نیراد نهراد نهراد از حمله اردوی شریران نیراد خواهر و برادر میهن پرست من ای خواهر و برادر میهن پرست من یک تب بشه تابیم با میدان نگرد
که la musique que nous écoutons ce soir c'est une cassette enregistré clandestinement à Kaboul. Voilà, petit ennui technique réparé. Maintenant, nous allons parler un peu des femmes afghanes. Parce que je vous rappelle que c'est Radio Pleine Lune, la radio des femmes. Et nous, ça nous importe énormément de savoir ce que font les femmes sur la terre entière, comment elles s'organisent, quelles sont leurs conditions et aussi et surtout comment elles luttent, comment elles résistent, comment elles attaquent. Anna, toi qui viens, je le rappelle à tous nos chers auditeurs et auditrices de passer quelques semaines en Afghanistan, tu nous parles un petit peu de la condition des femmes afghanes et après de leur participation à la lutte.
Les femmes afghanes vivent dans des conditions très difficiles. Déjà, avant l'invasion, elles avaient entre 10 et 15 grossesses, ce qui rend la condition physique très difficile. Et en plus, la moitié de leurs enfants mouraient en bas âge de malnutrition, de maladie. Le côté grossesse et accouchement était absolument désastreux. Beaucoup de femmes mouraient en couche aussi et des infections diverses à cause des conditions difficiles. Depuis la guerre, cette situation s'est empirée parce que non seulement elles continuent à avoir 10 ou 15 grossesses et la moitié des enfants meurent de malnutrition, mais l'autre moitié des enfants meurent des bombardements, des attaques chimiques, du napalm et des mines antipersonnelles. Alors le fruit de leur travail est très peu gratifiant. Parlant travail, déjà avant l'invasion, elles travaillaient dur dans les champs. Elles sont les pieds nus dans la terre, dans les rizières. Elles attrapaient la malaria, la tuberculose, le rhumatisme. La condition des paysannes partout dans le monde et en Afghanistan était très difficile. Alors maintenant, non seulement la situation est encore difficile par rapport à l'agriculture, elles doivent utiliser les mains souvent pour travailler, mais en plus, les bombardements, les attaques chimiques et le napalm font que leurs efforts sont absolument détruits en 5 minutes par des hélicoptères et des MiG. La population, dans certaines régions d'Afghanistan, notamment le Hazarajat, sont en train de commencer des périodes de famine. Et puis la question de la nutrition est absolument essentielle pour la survie de la résistance afghane. Bon, déjà avant, du point de vue ménage, enfants, cuisine, tout ça, elles s'occupaient des hommes de la famille, de la tribu, À deux ou trois, elle s'occupait de cinq ou six hommes. Et puis maintenant, à cause de l'intervention soviétique et de la résistance qui a dû s'organiser, ces mêmes deux ou trois femmes nourrissent et s'occupent de 20, 40, 50, 80, 100 combattants. Donc, en les nourrissant, en leur apportant de l'eau, en faisant toutes ces choses-là. Alors, la guerre a vraiment empiré, objectivement et violemment, la situation des femmes. Bon, face à ça, elles s'organisent.